le régent et la rumeur. Porté au pouvoir à la mort de Louis XIV, le régent traîne depuis près de 3 siècles une réputation sulfureuse. Réputation qui occulte ses réelles qualités avec lesquelles vous allez faire connaissance. Vous allez suivre aussi ses tentatives pour obtenir la paix, au moyen d'alliances les plus inattendues. Qu'il en a fait couler de l'encre, le régent ? Que n'a-t-on pas dit de lui ? Quels fantasmes ou fantasmagories ne se sont pas développés avec de gourmandes complaisances voyeuristes autour des soirées débraillées qui eurent lieu en sa présence, avec sa caution, sa participation ? Ce qui a été raconté comporte une grande part de vérité. Les dîners fins, suivis de parties fines, dans une atmosphère surchauffée au nouveau vin que viennent de mettre au point Dom Pérignon, le champagne. Mais il n'y a rien de neuf, sauf le lieu et la façon. De Versailles, la cour est venue s'installer au palais royal. De clandestine, les orgies sont devenues publiques. En effet, à Versailles, surtout dans la dernière partie du règne de Louis XIV, l'oisiveté a produit les mêmes conséquences sur les mœurs des courtisans que celles dont il est question lorsqu'on parle du régent Philippe d'Orléans. Mais à Versailles, le surveillant général Louis, encouragé par sa dévote Madame XIV, pouvait tout voir et tout savoir. Alors s'ajoutaient à la turpitude les délices du clandestin et de l'interdit. On peut même dire que les fêtes orgiaques du Palais-Royal délivraient sans doute moins de saveur, moins d'intensité voluptueuse que celles du règne précédent. Il n'en reste pas moins qu'elles eurent lieu, sous les yeux des Parisiens. Et puisque, c'est Villon qui le dit, il n'est bon bec que de Paris, tout fut dit.
Triste contredanse. 3 semaines après la mort du roi, Philippe d'Orléans fait ouvrir l'opéra au public, au Palais Royal. Un grand bal y a lieu 3 fois par semaine. Pour une somme dérisoire, tout le monde peut y venir danser de 10h du soir à 4h du matin. On y voit souvent le régent, qui devient très populaire, avant que la postérité ne lui joue une triste contredanse.
Pourtant, le régent n'est pas que, diront ses adversaires, cette espèce de paillard ivre et lubrique qui se vautre en éructant dans le stupre. L'histoire l'a bien malmené. C'est un homme d'une grande intelligence, fort cultivé, doué en musique au point de composer habilement toutes sortes de pièces. Il est passionné par les arts, par les sciences. Il possède même un laboratoire de chimie. Il sera, à cause de cette curiosité scientifique, accusé de sorcellerie. Il est épris de liberté, de justice et de paix. Parce que Louis XIV se méfiait de lui et savait qu'il pouvait devenir aimé et populaire, il l'avait envoyé faire la guerre. Philippe d'Orléans y fit preuve de dons si remarquables que le monarque en prit ombrage. Quoi ? Un Orléans pourrait lui voler la vedette ? Jamais de la vie. Et Philippe d'obéir, de quitter l'armée qu'on lui interdit. Amer, il développe une philosophie du plaisir liée à celle du scepticisme. Il est trop clairvoyant pour espérer mieux de ceux qui entourent le roi de leur lâcheté complice. Amoureux de la paix, il avait fait la guerre en s'efforçant toujours d'épargner les vies. Il va décider des alliances qui vont la garantir pour plus de 25 années, même si ces alliances paraissent à l'époque, dès qu'elles sont connues, inattendues.